ravi de vous présenter cette séance consacrée à Casablanca. Et elle sera, je crois, cette ville, un exemple de la problématique, pour parler sérieusement, de l'accès de ces villes, dont vous avez vu déjà un certain nombre d'exemples dans les présentations qui vous ont été faites antérieurement, de ces grandes urbanisations, ces grandes agglomérations des pays en développement. La particularité de cette présentation, c'est de nous orienter sur la question des services. Entendons par là les services urbains, les services en réseau ou les services publics. Évidemment, je serai modeste dans ma présentation. Il ne s'agit pas d'une présentation exhaustive sur l'ensemble des services qui peuvent aller de l'eau jusqu'à la santé. Mais on se limitera à ce qui s'appelle les services de base, ceux qui sont fondateurs de la qualité de la vie en milieu urbain. Et plus précisément, l'eau potable, l'assainissement et l'électricité. Et vous verrez que c'est une problématique déjà suffisamment compliquée pour qu'elle constitue un exemple intéressant et révélateur de cette problématique de l'accès aux services dans les villes, dans les métropoles des pays en développement. Alors, cette orientation pays en développement, elle n'est pas fortuite, évidemment, c'est que l'on a là des spécificités que l'on va regarder de plus près et qui rendent particulièrement complexe et urgent, on a ces deux dimensions spécifiques, de cet accès aux services, qui sont évidemment ces services indispensables pour non seulement la qualité de vie urbaine au sens large, mais à l'équilibre, voire à la stabilité sociale de ces métropoles. Voilà. Il s'agit du résultat d'un programme, pour vous le situer très, très rapidement, un programme de recherche qui a été initié par l'IRD, donc notre institution, Institut de Recherche pour le Développement, dans le cadre d'un laboratoire qui est ici à Marseille, le laboratoire Population, Environnement, Développement, et appuyé par l'IDRI, je le mentionne, parce que l'IDRI est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et que l'IDRI a appuyé matériellement, financièrement, pour être clair, ce programme qui va se développer dans une ville qui est, on va le voir, qui est en réalité desservie en eau, en assainissement et en électricité par une entreprise privée qui est délégataire de services publics, qui est une filiale de Suez Environnement qui s'appelle la Lyonnaise des Eaux de Casablanca et qui nous a complètement ouvert ses informations pour cette présentation et ce programme de recherche. Avant d'en venir à Casablanca proprement dit, je crois qu'il est important de contextualiser cette problématique générale. Et cette question des services, évidemment, est directement liée à l'urbanisation, qui est un phénomène mondial. On le sait, hein, que la majorité de la population est maintenant urbaine. Mais il est important de voir qu'elle a un certain nombre, que cette urbanisation extrêmement dynamique a un certain nombre de conséquences, d'implications et d'exigences. Elle va, entre autres, définir des besoins extrêmement importants en services de base. Donc, je les rappelle, eau, assainissement, énergie, déchets et transport. Évidemment, on peut rajouter les télécommunications, on peut rajouter l'habitat, on peut rajouter la santé, etc. Mais on voit bien que les services en réseau sont des services qui sont fondateurs du fonctionnement urbain. Il y a donc là quelque chose de une sorte de préalable indispensable au développement territorial des villes. Et ces besoins en réseau vont s'organiser autour de deux grandes thématiques. Les financements, tout ça coûte extrêmement cher, évidemment. Où trouver l'argent? Comment mobiliser les ressources? Et des questions de gouvernance. Pour faire clair et pour pas encombrer, je dirais, le débat, je mettrai l'accent plutôt sur la gouvernance On verra de quoi il s'agit, c'est un terme médiatique mis à toutes les sauces. On va le définir d'emblée pour savoir de quoi on parle. Il s'agit en fait de faire travailler ensemble un certain nombre d'acteurs, l'État, les banquiers, les institutions internationales, les élus, les associations, autres ONG, opérateurs privés. Tout ce petit monde doit travailler ensemble impérativement et tout ça est extrêmement compliqué. Autant lever des financements est une question relativement accessible, j'allais dire aisé, ça aurait été peut-être excessif, autant régler des questions de coordination entre acteurs est une véritable difficulté. C'est peut-être pour ça que je vous proposerai dans la présentation d'insister plus sur la gouvernance et si vous souhaitez des précisions évidemment sur les financements, j'y reviendrai par la suite au cours des questions. Cette problématique générale, comme je vous l'ai indiqué en introduction, elle sera illustrée par un exemple sur lequel j'ai travaillé à Casablanca, qui est donc piloté par la Lyonnaise des Eaux de Casablanca, l'IDEC, filiale, donc, comme je vous l'ai indiqué, de Suez Environnement, qui a un contrat de délégation avec l'État marocain. Contrat de délégation, ça veut dire, vous entendez la logique de ce montage contractuel, on confie à travers un contrat de longue durée, on confie à un opérateur privé la réalisation et la mise en œuvre, les investissements donc consacrés à l'eau, l'assainissement et l'électricité sur des programmes. C'est un programme là d'un contrat de 30 ans qui est extrêmement, extrêmement important. Et donc j'ai eu pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir si ça vous intéresse, comment on travaille avec un opérateur privé de cette dimension qui a cette responsabilité. Vous imaginez les enjeux financiers, politiques pour tout dire, sociaux, les conséquences environnementales et donc il y a un rapport de confiance qui doit s'établir. Nous y sommes arrivés, l'IRD a passé donc une convention avec cette société, non pas dans le cadre d'une commande, puisqu'il ne s'agissait pas du tout d'une commande faite par l'opérateur vis-à-vis de l'IRD, mais l'IRD proposait un programme de recherche et l'opérateur a ouvert en quelque sorte ses données et nous avons pu développer ce programme de recherche. Voilà le tableau général que je vous propose de parcourir maintenant. Comme je vous l'ai indiqué, on partira sur la thématique donc, de ces séances et qui évidemment surplombe aussi cette session, c'est celle de l'urbanisation des pays en développement. Elle se caractérise de plusieurs façons. Elle est, pour l'instant, là, cette urbanisation a dépassé ces temps-ci, même tout ça, si tout ça n'est pas précis, mais en tout cas, on a dépassé les 50% et on s'achemine maintenant vers des taux d'urbanisation moyens à l'échelle mondiale qui sont donc supérieurs à la moitié et qui devraient atteindre, donc qui devraient concerner les deux tiers de la population. D'ici un demi-siècle, on devrait avoir donc les deux tiers de la population mondiale qui est urbaine. Et évidemment, tout ça a un certain nombre d'enjeux, parce que les rythmes sont très rapides, on le verra, et que les conséquences sont des exigences, des attentes, des besoins sociaux, des demandes qui sont formulées et auxquelles les États, que ce soit au niveau national, que ce soit les collectivités territoriales ou que ce soit les institutions internationales ou les grands bailleurs, sont évidemment invités à circonscrire et à satisfaire. Parce qu'il y a des risques d'instabilité sociale possibles. Et puis l'autre particularité, c'est que cette urbanisation, elle se fait de façon contrastée du point de vue socio-spatial, c'est-à-dire du point de vue de sa physionomie, je dirais, en termes de groupes sociaux, et du point de vue de l'espace aussi. On est dans une différenciation de niveau de vie importante. Hein. Plus d'un milliard de personnes vivent actuellement dans des bidonvilles ou dans de l'habitat précaire, informel en général, et que ce phénomène devrait continuer à non seulement exister, mais voire à s'amplifier en valeur absolue. Alors, il faut comprendre cette réalité statistique où on peut avoir un recul relatif de la pauvreté. Hein, mettons 30% aujourd'hui de la population est considérée comme pauvre. Il se pourrait que dans 10 ans, on n'en ait que 25% ou 20%. Mais néanmoins, comme tout ça est dans une croissance démographique importante, en volume absolu, vous avez une masse de personnes pauvres importante. Et donc, tout ça pèse évidemment fortement sur les politiques publiques et les enjeux des institutions internationales. Dans la plupart de ces pays en développement, On a deux formes principales d'occupation, je dirais, de l'espace et de l'extension, je dirais, socio-spatiale, à la fois sociale donc, et géographique, de ces villes, de ces métropoles, des pays en développement. On a d'une part des extensions rapides de zones, de vastes zones périphériques où le sol est occupé de façon non réglementaire. Et là, on est dans l'illégalité la plus complète. Ça veut dire qu'on l'a vu fréquemment, que la police, que les États peuvent décider d'évacuer des lotissements qui ont été donc occupés illégalement. Donc une politique, en tout cas une réalité de très grande précarité des populations qui sont des migrants qui viennent de milieux ruraux, chassés par la désertification, par l'agro-business qui fait qu'on a moins besoin de bras. Et donc ces gens se retrouvent à la rue, en ville, mais en fait de rue c'est dans les terrains vagues, et donc l'habitat et l'accès à la ville se fait par l'habitat, et donc on a ces zones d'extension qui prennent deux formes là aussi principales, on va le voir, soit la forme bidonville, soit la forme de quartier précaire. Bidonville, ça veut dire que en fait, les gens occupent un terrain, c'est des invasions, tout simplement, alors illégal bien entendu, légitime ça peut se discuter. Ces gens ont besoin d'habiter, et donc on est dans du bidonville, ils rassemblent quelques matériaux pris sur des chantiers et font donc des baraquements extrêmement sommaires, sans aucun service de base, et vivent là de façon tout à fait précaire. Et puis vous avez l'autre modalité, qui est le quartier non réglementaire, qui lui donne lieu à une transaction commerciale, généralement avec un propriétaire agricole qui est en périphérie de la ville et qui va vendre son terrain de la main à la main, sans titre foncier. Donc évidemment, il y a aussi une forme de précarité, même s'il y a un échange marchand, en quelque sorte, une transaction qui a été faite, on est quand même dans une précarité importante, sauf que ces quartiers précaires se caractérisent par des constructions en dur, en aglo, sur 2-3 étages, et donc il est beaucoup plus difficile, je dirais, de les évacuer par une descente de police. On a donc là une situation de fait qui se crée et qui demande une réponse, même s'il s'agit de couches pauvres aussi, peut-être moins pauvres que ceux des bidonvilles, puisqu'ils ont pu quand même accumuler quelques parpaings, un peu de ciment, et donc cette petite épargne mérite d'être gardée à deux fois de la part des pouvoirs publics, parce que ces populations ont été en mesure de répondre à leurs besoins d'habitat et ont trouvé des modalités qui, évidemment, supposent des réponses adaptées, on le verra. Ça, c'est donc pour ce qui concerne toutes ces extensions de quartiers périphériques, je dirais pauvres, avec les deux volets que j'ai évoqués. Et puis, vous avez une expansion aussi de zones résidentielles, beaucoup plus, enfin, très différentes d'un point de vue social, de zones de population à revenus élevés ou moyens, avec des centres d'affaires, des centres commerciaux, et qui supposent de disposer de moyens de transport individuels, puisque les moyens de transport collectifs sont relativement insuffisants. Voilà donc le panorama. On a vu ces rythmes élevés d'expansion démographique, une expansion spatiale qui est importante aussi. Il faut savoir qu'un taux de croissance démographique, on le verra sur le cas du Maroc, de 2% suppose un taux de croissance de l'espace deux fois plus important, parce que vous avez une croissance dans l'espace qui fait que la surface évolue beaucoup plus vite que la population. Et donc là aussi, vous pouvez percevoir intuitivement les questions de réseau qui vont se poser, puisqu'il va falloir aller courir après cet espace qui se développe, qui s'étend, et qu'il va bien falloir poser des réseaux au milieu de ces surfaces extrêmement important. On peut affiner cet accès difficile, cet accès compliqué aux services de base, en considérant que les populations qu'on va devoir desservir, on l'a vu, ce sont des populations pauvres. La pauvreté qui va être évidemment un obstacle quand il va s'agir de mobiliser des ressources et de trouver des financements. Et puis l'autre difficulté, c'est la préexistence du bâti. C'est-à-dire que vous avez déjà, que ce soit dans ce type de quartier bidonville ou dans des quartiers précaires, vous avez le bâti qui est déjà en place. Donc refaire passer des tuyaux au milieu de tout ça, refaire de la voirie, vous voyez qu'on a l'impression très nette de prendre les problèmes à l'envers. C'est-à-dire qu'il faudrait, dans l'idéal, et c'est ce qui se fait, généralement, quand on aménage au plein sens du terme un quartier, un lotissement, on fait la voirie et les réseaux, et puis ensuite on bâtit dans les parcelles qui ont été prévues à cet effet. Là, on a une préexistence du bâti informel qui rend les choses évidemment beaucoup plus compliquées. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'accéder à l'eau potable, mais aussi à l'assainissement liquide. C'est-à-dire, quand on distribue de l'eau, il faut aussi l'évacuer, parce que l'approvisionnement en eau classique, il vient d'où ? Il vient de vendeurs d'eau, il vient de bornes fontaines qui sont situées à proximité. Et la consommation moyenne à partir d'une borne fontaine, ce qui est sorti de la borne, c'est 20 litres. Ce qui arrive à la maison, c'est 10 litres, parce qu'il faut voir comment ça se passe. Les files d'attente où les gens remplissent des bidons avec de l'eau, évidemment, qui est totalement gaspillée, parce que tout ça se fait dans des conditions de conditionnement et de transport extrêmement approximatifs. C'est transporté à bras d'hommes ou de femmes le plus souvent, d'ailleurs, ou sur des carrioles, et donc des pertes importantes. Et le volume d'eau est de 10 litres en moyenne, utile. Qui est stocké avec des risques aussi de contamination. Alors que cette consommation moyenne par jour de 10 litres, quand on passe au robinet, on est tout de suite à 60 litres ou à 80 litres. Donc on est dans des volumes beaucoup plus importants qui supposent évidemment une évacuation de cette eau techniquement indispensable. Sinon, c'est des situations de cloaques, même en pleine saison sèche, les terrains qui ne sont pas forcément tous perméables ne permettent pas l'absorption de cette eau, et de toutes les façons c'est des eaux usées, que ce soit des eaux de vaisselle, des eaux de toilette et autres eaux grises ou eaux noires qui évidemment nécessitent une évacuation spécifique. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, entre l'eau potable et l'assainissement, il faut maintenant considérer l'évacuation des eaux de pluie. Le changement climatique qui est à l'œuvre laisse voir très clairement qu'il y a maintenant un aléa climatique qui fait que les volumes d'eau qui se déversent dans ces zones, mais sur l'ensemble de la ville, évidemment, sont conséquentes à la fois en volume et puis en termes d'évacuation. Il s'agit de trouver des modalités de traitement d'évacuation de ces eaux pluviales. À noter que ces quartiers sont généralement installés dans des bas-fonds, dans des zones dont personne n'a voulu jusque-là, et donc dans des zones qui sont particulièrement soumises à ces aléas climatiques. Et donc on a là un risque supplémentaire auquel sont exposés ces quartiers. Le tableau peut être complété en considérant qu'une fois qu'on a posé des réseaux, il faut les entretenir, il va falloir les renforcer parce qu'il y a des populations supplémentaires qui viennent renforcer la densité des quartiers, donc renforcement des canalisations et renouvellement des réseaux existants, puisque au bout de 10-15 ans, les réseaux doivent être reposés complètement. Et avec l'objectif, au bout du compte, ce qui s'appelle pompeusement, mais c'est quand c'est une réalité, elle est très satisfaisante, c'est celle de l'inclusion des couches urbaines pauvres. C'est une vision qui est largement partagée au niveau international. C'est considéré que ces couches urbaines pauvres ont maintenant une citoyenneté, une urbanité qui fait que l'accès aux services est une réalité qui doit être satisfaite. Le résultat de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, on a 900 millions de personnes qui vivent encore sans eau potable et on a 2 milliards et demi de personnes qui n'accèdent pas à l'assainissement. Et avec des retards, plus particulièrement en Afrique, où la croissance de la population urbaine a été significative. La réponse qui a été apportée face à cette réalité, il faut mettre ça dans la dynamique de la pensée internationale, des politiques de développement international. Et un des éléments en matière d'eau et d'assainissement qui est important, un cadre fondateur actuellement, c'est celui des objectifs du millénaire, qui est donc une décision des Nations Unies de considérer que la période précédente, qui était fondée sur le tout marché, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la pensée économique et de sa réalité, mais le tout marché a montré ses limites. Et donc, au tournant des années 2000, on a considéré qu'il fallait voir les choses autrement. Et on a appelé ça les objectifs du millénaire, qui a été de dire, peu importe de quelle façon on va y arriver, non pas forcément par le marché, par l'opérateur privé, mais il faut absolument satisfaire ses besoins d'accès aux services. Et donc, les objectifs du millénaire, qui sont au nombre de 7, ont tous quelque chose à voir avec les questions de l'eau et les questions d'assainissement, d'hygiène Qu'il s'agisse de l'exemple, enfin de l'objectif numéro un, réduire l'extrême pauvreté et la faim, ben, ça pose des questions d'eau domestique et d'eau agricole. Le deux, l'éducation primaire des enfants, c'est supprimer les corvées d'eau. C'est généralement les femmes qui traitent ces questions de ces questions d'eau, et en tout cas d'approvisionnement, et donc il se posait la question de la mutation en quelque sorte, la transmutation qui devait être opérée, que le temps que les petites filles en particulier passaient à aller chercher de l'eau devait être du temps qui devait être un temps scolaire, un temps passé à de la formation. Et donc la question de l'éducation primaire passe par la résolution de cet accès au réseau. Et puis, bon, on ne va pas les prendre tous en enfilade, mais par exemple le 4, hein, réduire la mortalité infantile, et bien 4000 décès par jour d'enfants de moins de 5 ans liés à des diarrhées et à des problèmes de qualité d'eau. Ou bien préservation de l'environnement, pour ce qui est du 7e qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la prise en compte des besoins en eau des écosystèmes dans l'allocation de la ressource. C'est-à-dire très clairement, il s'agit de rendre compatibles les besoins en eau des populations, qu'elles soient rurales ou urbaines, et la mobilisation des ressources nécessaires. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation générale sur cette problématique globale, hein, à la fois de l'urbanisation et des nécessités de réseau. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer dans une focale plus territorialisée, je dirais, c'est celle du Maroc et plus précisément de Casablanca. Maroc, vous situez, il est important de voir qu'il s'agit quand même d'un pays de niveau de développement moyen. Un niveau de PIB qui est évalué, on ne va pas tomber dans les détails techniques, mais on appelle ça en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'avec une telle somme, compte tenu du niveau des prix sur place, vous pouvez considérer que vous avez un pouvoir d'achat de 5 000 $ environ. Donc c'est un niveau moyen pour un pays en développement, avec un taux de raccordement à une source d'eau améliorée de 82%. C'est-à-dire que sur l'ensemble du pays, on accède à l'eau sous forme de borne-fontaine ou sous forme de robinet à un niveau qui est internationalement parfaitement intéressant. On en vient à Casablanca, qui est le terrain sur lequel j'ai travaillé. C'est une grande ville de 4 millions d'habitants qui concentre ville économique importante, qui produit 20% du PIB national. Et une ville qui est gérée par un maire, par une municipalité, M. Mohamed Sajid, avec des élections municipales. Si je fais référence à la municipalité, c'est que les communes sont responsables, constitutionnellement, sont responsables de ces services et de la distribution de ces services aux populations. Donc les collectivités sont un acteur pivot, on verra ce qu'il en est dans la réalité, mais au moins en droit, on a là un interlocuteur extrêmement important. Si on regarde de près, ça va être ça l'objet là de la présentation, et du temps qui me reste, ça va être de préciser comment le Maroc a traité différemment les bidonvilles et les quartiers d'habitat non réglementaires. Hein, je vous rappelle la définition. Les bidonvilles, maisons en bidon, logements très précaires, construits de façon anarchique, avec des matériaux de récupération, sans accès aux services de base, sauf des bornes fontaines qui sont posées tous les 200 ou 300 mètres, hein, donc ce qui suppose ce travail de remplissage. Le terrain est occupé sans autorisation officielle, et l'appui de notables et la bienveillance sociale, pour le dire comme ça, de certaines autorités, explique l'existence de ces implantations. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les élections, par exemple les élections communales, ont facilité ce type d'invasion de terre parce que des prétendants à l'élection s'arranger pour octroyer des bouts de terrain, et les populations occupaient ces terrains, et moyennant cette faveur, les populations étaient invitées à voter pour le notable en question. Donc le paradoxe, c'est que la démarche démocratique, la démarche représentative, finalement, a poussé à l'expansion de ce type de procédé. Sur les bidonvilles, même chose sur les quartiers précaires, on trouve la même logique, sauf que là, on est sur des quartiers qui sont situés en périphérie, sur des terres agricoles non viabilisées. Comme je l'ai indiqué, ces parcelles font l'objet d'une transaction commerciale non réglementaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre de foncier, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de cadastre. Les constructions sont en dur sur quelques étages, un ou deux, et évoluent en fonction de la modeste capacité financière des populations. La même chose, l'accès à l'eau se fait par borne-fontaine, pas de collecte d'eau usée ou par des vendeurs d'eau qui sillonnent le... Pour situer le tableau, des bidonvilles sur Casablanca, 500 000 personnes, hein, un demi-million, ce qui n'est pas rien, situé donc autour des usines, des chantiers de construction. Alors la question qui nous intéresse là maintenant, c'est quelle est la politique de l'État face à cette réalité de l'habitat précaire. Le Maroc a toujours été soucieux de lutter contre cet habitat informel, mais malgré les avancées qui ont été faites, les moyens mis en œuvre, la réalité, la dynamique de cet habitat précaire, qui tient aussi, il faut quand même le considérer, à une insuffisance d'habitat social. Et cette insuffisance d'habitat social, elle trouve comme réponse, en matière de besoin d'habiter, elle retrouve comme réponse à la fois le bidonville et le quartier précaire. En 2005, le roi Mohamed VI décide de mettre en œuvre l'initiative nationale pour le développement humain. Je dirais pour deux motifs principaux, eh bien c'est que les vertus du marché, pas seulement au niveau marocain, au contraire, le Maroc s'était tenu un peu à distance de cette réalité, mais au niveau international, le néolibéralisme avait montré ses limites et donc il fallait continuer à avancer en matière d'accès à ces services, mais selon d'autres modes que de s'en remettre au marché qui avait montré qu'on n'aboutissait pas forcément à ce qui était annoncé, d'une part. Et d'autre part quand même, il faut signaler qu'au Maroc en 2003, il y a eu des attentats tragiques qui sont partis des bidonvilles. Les kamikazes étaient issus des bidonvilles de Casablanca. Et donc le roi estimait qu'il était urgent de considérer autrement ces bidonvilles et de répondre aux attentes sociales de ces populations. Et donc là, on a une politique qui va se mettre en œuvre à l'échelle du Maroc, mais plus particulièrement à l'échelle du Grand Casablanca. Pour les bidonvilles, on va assister à un transfert des ménages par relogement ou ce qui s'appelle recasement, cession de terrain à bâtir en périphérie, tout ça aidé, subventionné, etc. Donc avec l'assentiment des ménages des bidonvilles, on les a déplacés, on les déplace, c'est toujours en cours, on les déplace vers la périphérie de la ville. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est ce transfert. Par contre, pour les quartiers d'habitat non réglementaires, c'est le maintien des ménages dans leur logement, un maintien sur place. Et évidemment, c'est là où les choses deviennent plus compliquées, puisqu'il va falloir les faire accéder, en étant maintenus sur place, à l'eau et l'assainissement. Et c'est donc précisément sur ce programme que j'ai travaillé. Je vais passer, parce que vu le temps qui passe, je vais passer très vite sur la résorption des bidonvilles du Grand Casablanca, la façon dont ça s'est opéré, c'est pas foncièrement nouveau. Vous voyez la logique, on délocalise les bidonvilles, on les installe dans des lotissements d'habitat social et à cette occasion, le fournisseur d'eau, d'électricité, d'assainissement fournit comme à n'importe quel client ses fluides. Donc ça, rien de bien, bien particulier du point de vue de l'opérateur, c'est par contre du point de vue de la politique nationale qu'on a un élément spécifique avec le déplacement des populations. Bon, le bilan est globalement positif, même si on pourrait en dire un certain nombre de choses. Le deuxième point nous ramène donc au quartier précaire, qui est le second axe important, traité donc par l'opérateur, on l'a vu, que tout ça s'inscrit dans le cadre du contrat de délégation de services publics, que l'IDEC a contracté depuis 1987 et qui a été révisé et qui a intégré ensuite cette dimension d'accès aux services pour les quartiers précaires. Le principe de ce projet INDH-INMA, c'est de subventionner le raccordement aux services. Là, je crois qu'il faut, faire un point extrêmement important. Vous voyez le mot qui apparaît, c'est subventionnement. Il faut savoir que c'est un mot qui était banni dans la décennie précédente. Il n'était pas question, même pour les plus pauvres, de parler de subventionnement. Et les objectifs du millénaire ont complètement fait basculer ce principe en disant il ne faut pas rêver, si on veut donner du service aux pauvres, il faut bien subventionner. Alors après, qui, comment, combien Mais néanmoins, il y a là un basculement complètement iconoclaste. On voit que la vision hyper libérale, montré qu'il fallait prendre les choses autrement, et le pragmatisme l'a emporté, et c'est tout à fait évident à travers des politiques comme celle mise en œuvre par le Maroc. Premier mot, subventionnement. Deuxième mot, raccordement. Raccordement, généralement quand on dit l'eau coûte cher, on pense à la facture d'eau. En réalité, c'est le raccordement qui coûte le plus cher. Un raccordement sur le projet sur lequel on est, au total, si on le faisait payer au prix coûtant, c'est 2 000 $. On peut dire 2 000 euros, on va faire très court. C'est 2 000 €. 2 000 € pour accéder à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité. Pour des ménages pauvres, il y a là quelque chose, évidemment, qui est un peu paradoxal. Mais néanmoins, le coût technique, hein, en quelque sorte, il est de cet ordre. Donc il faut trouver des modalités qui vont permettre aux plus pauvres de ne pas avoir à assumer intégralement, évidemment, ce coût. Et dans le cadre de l'INDH et du contrat de gestion délégué, donc il a été proposé des modalités adaptées qui fait que la population ne payera que le quart, donc 500 €, si on reste sur ce chiffre, pour accéder à l'eau, je répète, l'eau, l'assainissement et l'électricité. Donc 25% qui sont à assurer par le bénéficiaire. Avec en plus des modalités de facilité de paiement sur 3 ans ou sur 7 ans. Donc au bout du compte, on est sur des modalités de charges financières qui sont compatibles avec les budgets des populations. N'oublions pas qu'on est sur des quartiers précaires et pas des bidonvilles. Et donc il y a un peu d'argent. Le problème, c'est de bien positionner le curseur et de faire correspondre la facture d'eau, y compris le raccordement, la mettre en rapport avec les revenus de ces populations, qui sont des revenus informels, des revenus instables, mais néanmoins, globalement, qui peuvent être assumées, ces charges peuvent être assumées par ces revenus. Les résultats de ce programme, on le détaillera rapidement, c'est l'inclusion des ménages pauvres. C'est intéressant de voir qu'au bout du compte, effectivement, ces 75 000 ménages, alors tous ne sont pas raccordés pour l'instant, puisque le programme est encore en cours, mais sur les échantillons qui datent depuis, puisque le programme a démarré en 2005, on est en 2012, donc on a un certain nombre de résultats, on voit qu'on a très peu de désabonnements. Les gens restent effectivement fidèles en quelque sorte à ce mode d'approvisionnement, donc qui semble compatible avec leur capacité de paiement. Il faut dire que les factures d'eau mensuelles sont de l'ordre de 5-6 €, guère plus. Les volumes sont pas considérables. Les gens gèrent avec beaucoup de précautions leur consommation. Enfin, ils apprennent en tout cas à le faire. Et en même temps, vous avez dans la tarification, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez une tranche sociale, une première tranche sociale dans laquelle l'essentiel des populations de ces quartiers se situe. Et donc cette tranche sociale, elle est dite sociale parce qu'elle est subventionnée. Très concrètement, l'opérateur achète l'eau à 4 dirhams et il la vend à 2 dirhams à ses populations. Le dirham valant un dixième de l'euro à peu près. Et donc c'est l'opérateur qui doit éponger la différence dans une péréquation générale avec les autres tranches, puisque vous avez 4 tranches, une à 2, une à 4, 8 et 12 ou 15. Et donc c'est cette péréquation globale d'une tranche à l'autre qui permet de subventionner finalement cette consommation populaire. J'insiste, quand on parle du prix de l'eau, c'est bien distinguer la facturation mensuelle de l'accès au réseau avec le coût du raccordement. Le coût spécifique d'un programme destiné aux pauvres, il est important de voir que ce programme, il a un surcoût par rapport à un coût classique, puisque il va y avoir, on va y venir très vite, des modalités spécifiques de prise de contact avec les populations, en quelque sorte, et il est important de chiffrer ces données. C'est là où moi je suis intervenu en... pas rentrer dans un débat scientifique, mais en disant quel est le coût complet, c'est-à-dire le coût global de la mise en œuvre de ce programme. Et même l'opérateur n'avait pas imaginé, lui, il est dans l'urgence, il fournit ses services, etc. Et je disais, c'est important pour le Maroc, et sans doute pour d'autres responsables aussi du développement, de connaître le coût complet d'un programme de ce type. Donc en intégrant toute la démarche de négociation, on va le voir aussi bien avec les populations qu'avec les institutions. ce qui donne lieu à une gouvernance spécifique avec quelques outils, et le financement du programme, de ce programme social, qui est aussi une interrogation spécifique. En réalité, pour faire très court, et non pas régler ce problème de financement, qui est quand même la question clé dans les programmes sociaux, qui finance ces programmes sociaux, en l'occurrence, ça a été pris sur une enveloppe, je dirais, qui est disponible dans le cadre contractuel, hein, parfaitement, qui est disponible auprès de l'opérateur, mais sous le contrôle de l'autorité délégante, c'est-à-dire de la commune, et donc ça a été un financement très classique en réalité. On pourrait y revenir, ça, c'est plus compliqué que ce que j'en dis là, mais le véritable intérêt, c'est plutôt, je dirais, la gouvernance de ce système. Les caractéristiques, pour rappeler rapidement l'organisation, hein, au Maroc, une colonne vertébrale très structurée qui part du ministère de l'Intérieur et ensuite qui passe par les municipalités de Casa et l'opérateur qui lui donc assure. Le caractère opérateur qu'il a lui donne cette fonction donc opérationnelle. J'insiste sur ce mot-clé, c'est seulement le raccordement qui est subventionné. Le reste, c'est une application des grilles tarifaires classiques, même si je fais référence à la tranche sociale. N'importe quel client de la LIDEC, qu'il soit riche ou pauvre, consomme d'abord dans la première tranche, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. Donc c'est le raccordement qui a été subventionné, hein, comme je l'ai indiqué, à hauteur de, je dis 200 euros par service. En réalité, c'est 200 pour l'eau, 200 pour l'assainissement, plus on va dire 100 pour l'électricité. Donc on retrouve les 500 euros que j'ai évoqués sur les 2000 du coût total du raccordement. La dimension sociale est extrêmement importante. Vous imaginez, vous arrivez dans un quartier et vous demandez aux gens s'ils veulent l'eau. La réponse, c'est oui. Mais ensuite, il faut demander dans quelles conditions. Enfin, la question du coût va arriver, mais ils sont tout à fait intéressés. La question, c'est qu'il va falloir définir les bénéficiaires de ces quartiers. Or, c'est un choix national, un choix marocain que l'opérateur doit assumer. Le gouvernement marocain, l'État, a décidé que ce serait uniquement les populations et pas ni les commerces, ni les entreprises. Et les populations, on va enlever tout ce qui est ferme agricole, tout ce qui est villa de haut standing pour ne garder que l'habitat populaire. Mais tout ça est un peu, parfois un peu incertain puisqu'il y a des bidonvilles qui ne sont pas très loin, même si j'ai un peu forcer le trait en montrant des habitats de nature très différente. Parfois, on est dans une frontière qui fait qu'il est difficile de savoir. Voilà, donc c'est de définir un peu qui seront les bénéficiaires de ce programme, quels documents ils peuvent attester pour ne pas créer un effet d'appel d'air. Vous imaginez, si tous les présents qui sont là, on leur dit « vous avez l'eau ». Aussitôt fini la réunion, vous avez les téléphones portables qui sonnent et vous avez 3000 personnes qui débarquent en disant « moi aussi je suis là et je veux l'eau et l'assainissement », etc. En s'installant dans un bout de pièce. Enfin bon. Donc il faut absolument contrôler cet accès aux services selon des modalités qui sont... délicate, et là l'opérateur a fait un travail sous le contrôle des autorités, un travail remarquable d'information, de sensibilisation, de définition à partir de critères architecturaux, de catégories de bénéficiaires, ou plutôt on devra dire d'îles de ménages éligibles, puisque l'opérateur a défini qui était éligible, et c'est aux autorités de définir qui sera bénéficiaire. Et ça, c'est important, c'est l'autorité politique qui doit socialement définir qui accède à ce type de service subventionné. Là, le partage des rôles a été fait de façon tout à fait, je dirais, intelligente. La difficulté, c'est à ça que je veux en venir, et la spécificité de ce projet, moi, qui m'a paru tout à fait importante, c'est la dimension institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une complexité dans la mise en œuvre de ce projet. Quand on imagine un accès à l'eau, on voit un opérateur qui arrive avec son tuyau, qui est déjà presque plein d'eau, et il lui faut en face des ménages qui veulent de l'eau, ça tombe très bien, on ouvre les robinets et ça marche. C'est une vision évidemment extrêmement raccourcie. Parce que les réseaux ont une empreinte foncière extrêmement forte. C'est-à-dire, concrètement, il faut ouvrir les voies, il faut passer des tuyaux, il faut avoir des autorisations. Il faut avoir l'avis du ministère de l'Intérieur, de l'agence urbaine de Casablanca, qui va définir les zones qui sont ouvertes à l'urbanisation et quelles sont dans ces zones les zones qui vont être mises en construction. Le préfet de région, qui s'appelle le Wali, qui lui est le grand orchestre au milieu de tout ça, les gouverneurs, qui sont l'équivalent des préfets de département, et les agents d'autorité. Vous avez toute une architecture au Maroc qui descend très très bas, jusqu'au niveau du quartier, avec les caïds, les moncadèmes. Et le maire de la municipalité de Casa, les maires des communes rurales périphériques, l'autorité délégante qui est, je dirais, un mix entre les maires des différentes communes, les bailleurs nationaux et internationaux qui sont intervenus, le service permanent de contrôle qui est l'autorité qui suit la mise en œuvre de toute cette usine à gaz, et les propriétaires fonciers. Voilà le déroulé, en quelque sorte, la litanie des différents acteurs. Quand l'opérateur se retrouve face à ça, eh bien, il a un chantier qui s'ouvre devant lui considérable et qu'il a parfaitement assumé. C'est ce que j'ai trouvé, moi, tout à fait intéressant. C'est d'avoir un directeur de projet, un opérateur qui intervient en considérant que son véritable travail commence quand il a identifié les difficultés. La plupart des firmes, quelles qu'elles soient, c'est dire oh là là, on va pas y arriver parce que on n'a pas l'autorisation, parce que lui il veut pas, là ça va pas le faire, voilà, ça revient à ça, et donc le projet tarde, il est abandonné. Bon, ça permet de refaire surgir d'autres projets. Voilà. Là, ça a été une logique complètement différente qui a consisté à dire si le service extérieur de l'État qui doit amener l'eau. Ça s'appelle l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, m'amène des tuyaux destinés au milieu rural, alors qu'on va se retrouver en ville parce que la commune a changé de statut, donc il n'y a pas de responsabilité technique ou institutionnelle particulière, mais la situation a évolué et il faut absolument que les tuyaux posés par l'ONEP deviennent des tuyaux qui soient calibrés pour le milieu urbain. Donc comment on pose cette question et surtout comment on la résout ? Eh bien, l'opérateur a mis en place tout un système de suivi, de reporting extrêmement précis, attentif, de réunions, de courriers, de procès-verbaux, qui fait qu'il a pu établir ce qu'on appellera un outil de gouvernance, puisque ça a permis de coordonner ces différents acteurs, hein, en faisant part au plus haut niveau, c'est donc au préfet de région, en disant « Monsieur le préfet de région ». Je vous dirai ce que ça signifie. Si le mode d'intervention n'est pas validé, voilà, il y a 3100 ménages qui restent sur le carreau. Donc, on fait comment ? Mode d'intervention, ça veut dire quoi ? C'est savoir si on les traite comme des bidonvilles en les déplaçant ou si on les laisse sur place. Évidemment, vous avez compris de ce que j'en ai dit qu'il y avait là un choix déterminant. Et donc, si le mode d'intervention n'est pas défini par les autorités politiques, eh bien, on est dans une situation bloquée. Et quand ça arrive sur le bureau du Wali, du préfet, évidemment, il se sent directement concerné et il appelle aussitôt les chefs de service qui sont responsables du choix des modes d'intervention en disant « Lundi matin, je veux sur mon bureau les résultats. » Parce qu'au-dessus, vous avez le palais, pour tout dire le roi, qui suit ça de très près et qui est une pression. Hein, le roi a appelé ce projet le chantier de règne et donc pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important et il exerce une pression très forte, enfin, il n'y a même pas besoin d'une pression du roi, elle s'exerce naturellement, je dirais, qui fait que les structures opérationnelles sont mobilisées. Mais vous avez là donc des outils, une sorte de tableau de bord hein, qui permet très concrètement aux différents responsables de se mobiliser face à ces chiffres. Hein. Vous avez acquisition foncière pour les ouvrages. Il s'agit de quels ouvrages ? Des ouvrages pour passer des tuyaux, pour installer des transformateurs, pour faire des bassins de rétention d'eau, et tout ça, si ce n'est pas fait, si les acquisitions de terrain qui doivent être faites par les municipalités ne sont pas faites, ben vous avez 35 000 ménages qui restent en rade, c'est-à-dire la moitié du projet. Et voilà, il y en a comme ça toute une série, il y en a plus le financement, enfin je ne vais pas les détailler, mais vous voyez que c'est extrêmement important d'avoir ces outils de gouvernance qui ont été complétés par des conventions, c'est-à-dire que des textes contractuels ont été passés avec chaque commune, sur chaque opération, un reporting comme je l'ai évoqué, des procès-verbaux de réunion. C'est-à-dire très concrètement, lorsque la réunion était terminée, il y avait un relevé de conclusion qui était fait, qui était signé par les parties prenantes principales, et elle était reposée, ce procès-verbal, il était reposé sur le bureau ou envoyé avant la réunion suivante. Et donc ça crée un effet de cliquet qui est extrêmement important, avec des rapports d'activité semestriels extrêmement détaillés, envoyés à toutes les autorités responsables. Ça, c'est pour cette gouvernance externe, cette coordination externe, alors qu'en interne, on a toujours cette proximité entre les différentes phases, pas rentrer dans les détails, différentes facettes, la préqualification, les études, les travaux et le département d'accompagnement clientèle. Mais cette fusion qui m'a fait dire que c'était une véritable dream team qui gérait cette direction à INMA, est vraiment, je dirais, un secret de fabrication tout à fait intéressant. Avec l'échange d'informations entre le terrain et la décision, une méthode extrêmement réactive, évolutive. J'ai découvert, pour le dire, ce que signifie le management, qui est une interactivité extrêmement forte, avec une écoute très, très sensible, avec un sens de la responsabilité qui a été véritablement comment dire, qui est apparu comme un rouage du développement. D'autant plus quand on la resitue dans cette idée de coordination interacteur. Hein, le directeur de la direction INMA considérait que son travail, je l'ai dit, commençait lorsqu'il avait identifié une difficulté. Il prenait son bâton de pèlerin et il montait toute la hiérarchie dans dans tous les services, avec les moyens que j'ai évoqués, pour faire bouger les lignes. Il y est arrivé parce qu'il a en face, dans ses entités aussi, et c'est ça qui est intéressant, et le Maroc, de ce point de vue-là, est un exemple intéressant de ce que signifie l'émergence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des structures qui restent parfois un peu lourdes, administratives, mais à l'intérieur, des individualités qui boostent littéralement leur fonction et qui vont vers leurs objectifs. Et donc, vous imaginez que de tisser un réseau social de professionnels, eh bien, c'est un moyen d'activer cette relation entre les différentes entités dont j'ai dressé la liste à peu près exhaustive. Voilà donc le cadre général de ce projet INDH avec ses qualités. Le résultat, c'est on avait en 2011, on avait 50% des ménages qui étaient raccordés et les 50% qui vont suivre sont en cours de réalisation. On a une véritable inclusion urbaine. Moi, enfin, j'y croyais pas trop. C'est une question que j'ai posée au départ au projet en disant oui, mais attendez, vous raccordez, mais on l'a vu dans certains cas où, une fois que vous avez raccordé, que vous avez terminé, les gens ne payent plus l'eau, coupent l'eau parce que c'est trop cher. Parce que là, il y a un véritable suivi qui montre qu'il y a un besoin qui a été satisfait dans des conditions, je dirais, optimales. Valorisation des quartiers, vous imaginez que les quartiers qui sont raccordés, évidemment, prennent de la valeur. Bon, prennent de la valeur. La question, c'est où passe cette valeur? Et là, il y a un chaînon manquant, c'est la fiscalité locale, c'est la collectivité locale. On ne va pas parler du financement à cette occasion, mais il y a sans doute une ressource financière importante à mobiliser. Mais ça, c'est un choix souverain, hein, sur lequel moi, je n'ai pas évidemment à intervenir, mais néanmoins mentionner qu'on a là un véritable gisement de ressources qui mériterait d'être regardé. Et puis, son résultat, c'est effectivement d'avoir fait ce que j'ai appelé un peu pompeusement l'intermédiation sociale, hein, vous l'avez vu dans les négociations avec les populations, la sensibilisation, et de la médiation institutionnelle en boostant, en accompagnant les autorités, les administrations, tous les responsables nationaux pour accélérer la mise en œuvre de ce programme, parce que tous les retards, évidemment, ont un coût social, un coût environnemental considérable. Donc, au bout du compte, ce programme a donné un vrai droit de cité, enfin, dans le cadre de l'INDH, c'est le produit d'un choix de l'Initiative nationale pour le développement humain que j'ai mentionné. Ce programme a donné un droit de cité aux populations de ces quartiers. Bon, on ne va pas regarder tout ça en détail, les conclusions, mais parce que les enseignements que l'on tire quand même, globalement, c'est qu'il est possible de faire reculer ces lignes enfin, de la pauvreté, en tout cas de la difficulté d'accéder à ces services. Il y a des innovations, le Maroc en est porteur, l'appui d'un opérateur bon, français en l'occurrence montre qu'il y a des capacités tout à fait intéressantes, des innovations méthodologiques. La seule question centrale, c'est on sait faire, hein, la conclusion de ça, c'est qu'on sait faire, mais la question c'est qu'il faut qu'il y ait par le haut évidemment une volonté politique qui décide de le faire. Que les financements soient mobilisés, ce n'est pas simple. Je vais faire très court en le disant de cette façon. On pourra y revenir si vous le voulez, mais je considère que l'aspect financier est une contrainte. On peut la bouger, on peut trouver des modalités de faire avancer cette contrainte. Par contre, cette gouvernance que j'ai évoquée, cette coordination, cette mise en synergie, ce dialogue avec les différentes entités nombreuses qui sont mobilisées pour intervenir, cela constitue, peut constituer un véritable obstacle. Si ça n'est pas résolu, eh bien, on a un frein total à la mise en œuvre de ces politiques d'accès aux services. Voilà, et donc on peut en déduire effectivement que la complexité du développement urbain vient de la difficulté à réunir l'ensemble de ces facteurs. Mais des innovations locales, et le cas de Casablanca me paraissait intéressant à mettre en avant, montrent que les lignes peuvent bouger, au moins du sous-équipement urbain. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça fait reculer la pauvreté qui relève d'autres facteurs structurels. La question, c'est, parce que c'est bien comme ça que les choses se présentent, c'est dans le mode de répartition, je dirais, de la pauvreté et de la richesse, que peut-on faire pour faciliter l'accès des populations? Voilà, donc c'est une façon d'améliorer effectivement l'équipement urbain, d'améliorer la qualité de vie des populations, mais le rôle de l'opérateur, évidemment, doit être complété absolument, et doit, l'opérateur le voit bien comme ça, doit ensuite être relayé par les autorités territoriales qui doivent derrière faire suivre le traitement des déchets, la voirie, la santé, la sécurité et les services, tous les autres services urbains qui doivent évidemment accompagner ces processus d'accès aux services pour qu'on puisse parler de véritable développement urbain durable. Je vous remercie. Thank you.